du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Nous sommes de retour, évidemment, autour de la table. 665e numéro du coq à l'âne avec Jean-Claude Hérault, Bruno André, notre invité Daniel Spagnou et celui qui est arrivé en retard, mais on l'excuse, Romain Grisca.
Bonsoir à tous.
Salut. Non, mais Romain, il avait pas chargé l'or.
C'est ça.
Non, non, mais ceux qui me connaissent par cœur savent que je suis rarement à l'heure. Mais voilà, là, c'est vrai que la route était un petit peu compliquée pour revenir de Lyon.
Alors, évidemment, c'est le sujet de la semaine, hein, l'assassinat d'un professeur, évidemment. Alors, on va pas refaire l'histoire. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on va avoir du mal à en sortir de tout ça. Ça fait des années que nos différents gouvernements n'ont pas voulu prendre visiblement le sujet à bras-le-corps, de peur peut-être de se mettre les musulmans à dos. Ils ne veulent pas traiter de l'islamisme, de peur des amalgames. Comme le disait justement Boualem Sansal il y a quelques jours, la France ne comprend toujours pas ce à quoi elle est confrontée. Alors il va falloir trouver des solutions, il va falloir traiter les sujets, que ce soit au niveau de l'école, au niveau des familles, au niveau des responsabilités aussi des réseaux sociaux. Je voudrais vous faire écouter d'abord, une phrase de Robert Badinter.
Ah oui.
Robert Badinter qui était invité cette semaine.
Oui. France Inter.
Sur France Inter.
Avec sa femme.
Et voilà ce qu'il a dit, je vous propose d'écouter.
Dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a ainsi des femmes et des hommes qui s'exposent pour nous, pour la République, qui tiennent bon les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus. C'est un héros de la liberté, un héros tranquille, un héros anonyme, un héros comme il y en a tant. Mais qu'il soit salué, qu'on se taise, qu'on rende hommage, que l'on ne se déchire pas autour de projets de loi. La question à cet instant n'est pas là. Elle est d'abord dans le témoignage que la nation doit rendre de reconnaissance à ces femmes et ces hommes qui assument une fonction si difficile et sans laquelle nous ne pourrions plus continuer à espérer vivre dans la liberté.
Voilà. Daniel ?
Ah ben oui, je l'écoutais avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, c'est la sagesse même. Et vous savez que demain, à 11h, j'organise une grande manifestation devant la mairie et justement j'ai repris dans mon allocution ce que vient de dire M. Badinter. Parce que je crois qu'en effet, plus que jamais, il faut qu'on soutienne nos enseignants. En même temps, je lance un peu un appel aux parents d'élèves qui ont démissionné, il faut bien le dire aussi. Ils sont un peu responsables de tout ce qui se passe parce qu'ils n'ont plus la main du tout sur leurs enfants. Il faut que les familles et les parents éduquent leurs enfants. C'est déjà la première des choses. Continuellement, on reçoit des lettres, des critiques sur les instituteurs, sur les professeurs dans les mairies. Et alors qu'il y a seulement 10 ou 15 ans, ça n'existait pas. On voit bien qu'il n'y a plus du tout le respect de l'enseignant. Or, c'est la clé de voûte de la démocratie, c'est la clé de voûte de la laïcité et de la République.
Quelqu'un veut réagir, Jean-Claude ?
Moi, ce matin, j'ai écouté François Morel, qui a repris l'intervention de Badinter, qui vient de passer, et qui en a fait un commentaire. Du coup, je l'ai publié sur Facebook. J'invite les gens à aller écouter François Morel, c'est... j'avais les larmes aux yeux à la fin de sa chronique, parce que ça c'est dur, quoi. C'est, ce qu'on vit est très dur. Moi, je ne vous cache pas que j'ai du mal à m'en remettre. Hein. J'ai ça dans la tête en permanence. Ce n'est pas possible. Quand on peut imaginer qu'un enseignant se fasse décapiter, on imagine ce que c'est. Ce que ça peut représenter dans un pays comme la France, une telle atteinte, c'est insupportable. Pour moi, c'est un choc terrible.
Il faut mettre sur le tapis quand même l'islamisme,
oui,
rampant depuis des années, et personne n'a fait quoi que ce soit. Personne n'a fait quoi que ce soit depuis des années, de peur, comme je le disais hein, très rapidement, tout simplement, de peur de fâcher les musulmans. Alors que musulman-islamisme, ça n'a rien à voir.
Oui.
Ça n'a rien à voir.
On manque de courage sur ce point-là, c'est sûr. Et d'un autre côté, la communauté musulmane devrait monter plus fort au créneau. Parce que
ménage.
Moi, je les trouve un peu discrets sur le problème. Ça m'ennuie un peu.
Peut-être pas cette semaine, hein. On en a vu quand même certains.
Oui, mais il faudrait quand même le faire passer le message vraiment plus fort. Parce que le problème est quand même très grave. Moi, je... je suis quand même un petit peu surpris. Je voudrais revenir à ce que me disait M. Spagnot tout à l'heure concernant l'abandon des familles sur les règles de vie de notre société. Vous avez connu à l'époque l'instruction civique. Moi, je ne l'ai pas connu à l'époque.
Moi, je l'ai connu.
J'ai pas connu.
L'instruction Mais civique, j'avais des cours d'instruction
nos
civique.
Nos parents nous donnaient des règles. Et aujourd'hui, les parents d'élèves n'ont plus ces règles, ne donnent plus ces règles-là. Moi, je respectais le curé, je respectais le postier, le gendarme, l'instituteur, etc.
Le secrétaire de mairie, des fois.
Mais tout le monde. Moi, mes parents me disaient, quand tu vas à l'école, tu dis bonjour à tout le monde. Tu dis bonjour. Tu es le plus jeune, tu es un gamin, tu dis bonjour. Aujourd'hui, ça se dit plus, ça. Et quelque part, c'est monté crescendo, tout ça, cet abandon des devoirs du citoyen, ce qui fait que aujourd'hui, on peut tout critiquer, tout remettre en ordre, tout opposer, tout mettre sur les réseaux sociaux, et ça crée des dégâts. Mais par contre, là, et l'autre sujet, c'est l'islamisme, c'est sûr qu'on ne l'aborde pas. Moi, je, dans mon milieu professionnel, vous savez que je gère l'abattoir de Gap, notamment au niveau, je comprends tout à fait qu'il y ait un service pour le sacrifice de la viande halal, l'abattage rituel. Mais on n'arrive pas à le réglementer. Je sais, Monsieur Spagnot, vous avez été parlementaire. Mmh. En Allemagne, on a réglementé l'abattage parce que ça correspond à une culture, disons, européenne. Et les musulmans allemands, ils ont accepté certaines règles, notamment au niveau du bien-être animal et tout. Et nous, en France, on n'arrive pas. On est toujours entre la direction départementale des services de protection aux populations, la DDCSPP, qui nous impose une norme sanitaire et de bien-être animal, et le culte musulman qui dit « mais non, c'est comme ça ». Les Allemands, ils ont tranché.
Oui,
nous,
parce
on tranche pas en France.
Nos politiques ne veulent pas se mouiller. Nos politiques ne veulent pas se mouiller sur ce sujet sensible.
De même que sur certains imams qui ont des prêches qui sont tendancieux, il faut avoir le courage de les expulser, de dire « mais non ».
On a eu le cas avec cette semaine, la mosquée de Pantin qui a été fermée. Mmh. C'est un exemple.
Oui, moi ce que... Ça me rappelle en fait des souvenirs, c'était sous le président Sarkozy. Il parlait dans sa campagne, mais malheureusement ensuite ça n'a pas forcément été suivi des faits. Mm-hmm. En fait, le problème de l'islam en France, c'est l'islam de France. C'est pas l'islam en France. C'est ça, dans la terminologie, ce qui est important de comprendre. C'est que l'islam, certes, c'est une religion comme d'ailleurs les trois autres grandes religions mondiales.
Et qui est respectable.
Mais bien évidemment.
Mais bien sûr, non, mais c'est pas le sujet là.
Voilà, c'est pas le sujet. Mais le problème, c'est qu'il faut se conformer aux règles de la République française et que l'on le veuille ou non à l'histoire judéo-chrétienne de la France. Et le problème, il est là. Et en fait, effectivement, derrière, on a tout un panel politique depuis 30 ans, 40 ans qui essaye en fait de maintenir un peu l'ordre. Oh, c'est pas très grave s'il y a un, deux attentats par an. Tant que les banlieues ne s'embrassent pas, tout va bien. Ils sont en marge de Paris, en marge de Marseille, en marge de Lyon. On maintient comme ça l'ordre. Il ne faut surtout pas les brusquer. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on arrive, nous aussi, parce qu'il n'y a pas que les parents, nous aussi, citoyens, politiques, chefs d'entreprise, à démissionner face à tout ce qui se passe. Et juste pour terminer, je pense qu'il y a un problème d'autorité. On ne respecte plus l'autorité. Là, c'était l'autorité du professeur, parce que les enfants sont quand même allés balancer à un terroriste que le professeur avait dit ça. Mmh. Et ça peut être l'autorité surtout. On ne respecte plus le gendarme, on ne respecte plus le scientifique, on l'a vu à l'occasion de la crise du coronavirus, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a un véritable problème d'ordre dans ce pays.
Oui, Jean-Claude.
Je me suis permis de relire un peu la Constitution du 27 octobre 1946. Mmh. Que dit l'article 1 ? L'article 1 dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Voilà. Donc moi, je dis, les gens qui viennent habiter chez nous, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais qui respectent notre République. Et l'article 1 de la Constitution de 58, plus récent, dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes ». Moi, je pense qu'on ne rappelle pas assez ces règles de vie de notre pays.
Mais Jean-Claude, est-ce que notre pays respecte ses propres textes ? Parce qu'aujourd'hui, la République doit en tout cas être le garant de la liberté du culte. Mais sauf que, rappelez-vous, les scènes à Marseille, quand on voyait que les musulmans, et là c'était pas les islamistes, les musulmans priaient dans la rue jusqu'à interrompre le tramway, etc. Je pense que ça fait très longtemps en fait qu'on a ce problème. C'est pas un problème très récent. Et Certes, il ne faut pas faire l'amalgame entre les musulmans et les islamistes. C'est deux choses radicalement différentes. Hein. Il y a 0,0001% d'islamistes et de salafistes, parce que c'est ça, en fait, le terme,
oui,
c'est
le salafisme.
C'est le salafisme, alors qu'il y a 99,99% des musulmans qui sont respectables. Le problème, c'est que ces gens-là, comme tu as dit, Bruno, ils ne montent pas assez au créneau, justement, pour défendre leur religion.
Ça commence, parce que hier, sur France 5...
C'est un peu timide, quand même.
Sur France 5, il y avait une femme, imam, qui était d'ailleurs avec une, comment on dit, une juive, une rabbine.
Ouais, oui, ça, peut-être.
Ouais, un rabbin, une rabbine. Rabbine.
C'est ça, oui. C'était la vanne du
dames,
jour.
Ces deux dames étaient là sur le plateau. Et franchement, elle n'était pas du tout voilée, mm-hmm. alors que c'était un imam. Elle avait un discours très libéral, quoi. Très, et je pense que le changement viendra d'eux.
Oui, oui, mais moi, oui. Je suis persuadé que le changement dans la religion musulmane viendra des femmes. Mm. Ça, je pense que j'en suis intimement convaincu.
Daniel ?
Oui, on peut se poser quand même des questions. Bon, là, ils annoncent un tas de mesures qui vont dans le bon sens, mais est-ce que c'est une annonce ou est-ce que vraiment elles vont être ensuite votées par le Parlement ? Ouais. Encore que M. Badinter a raison quand il dit qu'il n'est pas nécessaire de retourner à une nouvelle loi.
Oui,
c'est vrai que si on applique la Constitution... On n'a pas besoin de nouvelles lois.
Et surtout, ne pas sortir n'importe quoi non plus. Voilà, on a quand même entendu le concours Lépine cette semaine de beaucoup de
c'est
propositions.
Un peu dommage, c'est un peu dommage. Alors, ça affaiblit la position.
Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut aussi faire en sorte qu'on puisse, dans toutes les communes, avoir la religion qu'on veut. Moi, il y a quelques années, quand j'ai été élu maire, et j'avais été très critiqué. Première des choses que j'avais fait, c'est une petite mosquée qui existe toujours, et bien sûr un cimetière musulman. Et à l'époque, faire ça il y a 25 ans, je peux vous dire que la population n'était pas d'accord. Et puis aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, ça se passe très bien, et peut-être mieux qu'ailleurs, parce que justement, on a fait en sorte qu'ils puissent exercer convenablement leur religion. Et puis aussi, il faut leur donner des places aussi dans la société. Moi, j'ai une adjointe qui est fille de Harki, donc musulmane, et qui me fait un travail remarquable. Elle est là depuis déjà deux mandats. Et je peux vous assurer qu'elle est très affectée de tout ce qui se passe. C'est elle qui est venue dimanche à ma place, devant la mairie, pour recevoir tous les syndicats des enseignants et... Elle a fait un petit discours qui a eu une portée formidable parce que ça venait d'une adjointe au maire et en même temps d'origine musulmane. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à combattre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un maire qui a reçu des menaces de mort.
Oui.
Donc là, et on est tous solidaires avec ce maire. J'ai envoyé tout de suite un message pour lui dire, mais les maires de France sont avec vous.
Tu l'as mis sur Twitter, je crois, le message.
Oui, tout à fait.
Alors, dans cette histoire, il y a eu plusieurs protagonistes qui ont été mis en examen, vous avez suivi. Mm-hmm. Il y a notamment le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui est à la base du collectif pro-palestinien qui s'appelle Cheikh Yassine, qui a d'ailleurs été dissous cette semaine. Mm-hmm. Il y a le père de famille, là où tout est parti, qui s'appelle Brahim C, qui a publié donc la vidéo sur Facebook et qui a surtout été plusieurs fois en contact avec le terroriste. Il y a trois autres majeurs aussi proches du terroriste qui sont soupçonnés de l'avoir aidé, qui ont été mis en examen. Et puis, ces deux gamins de 14 et 15 ans qui ont donc accepté de l'argent pour balancer leur prof. Je sais pas, moi qui ai un gamin de 17 ans, je me dis, mais comment tu peux réagir lorsque tu as un truc comme ça qui t'arrive? Alors, on parlait de la responsabilité des familles, et on peut se poser des questions sur la responsabilité de la famille dans ce cas-là. Elle n'a pas du gain, elle n'a pas de l'argent facile, mais enfin, ils sont quand même pas teubés, les gamins. 14 et 15 ans, on commence un peu à avoir de la jugeote, de réflexion. On peut imaginer que le gars, s'il leur a filé... Pas 10 centimes, c'était 300 euros ou 350 euros. Si tu files 350 euros pour uniquement qu'on montre quelqu'un, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui est... Il y a personne. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a plusieurs gamins qui ont été contactés et il n'y en a aucun, même ceux qui ont refusé, il n'y en a aucun qui a eu l'idée d'aller voir au-dessus pour dire il se passe quelque chose de pas clair. Quoi.
Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la responsabilité des familles, on en a déjà parlé, parce que il faut inculquer à nos enfants, enfin, moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec les miens tout au moins, c'est déjà par le discours, beaucoup discuter avec eux, puis leur montrer les notions du bien, du mal, et des dangers parfois des réseaux sociaux, de tout ça. Et le deuxième sujet, c'est peut-être aussi les réseaux sociaux. Est-ce qu'en faisant, en donnant cette vidéo, je ne vais pas quelque part faire le buzz, ça va monter, je vais me faire des likes, je vais faire ci, je vais faire ça. Et du coup, mais ça peut aussi faire des catastrophes. Et c'est bien là.
On est en plein catastrophe. On est en
donc,
plein
dedans. Je pense qu'il faut continuer dans les familles il faut pas lâcher et il faut arriver à donner la bonne direction à nos enfants, quoi. Ouais.
Mais il faut aussi responsabiliser une bonne fois pour toutes les réseaux sociaux.
Ouais. Oui.
Parce que là, il y a un vrai problème aussi.
Oui. Oui. Mais tu fais comment?
Mais c'est
impossible. En fait, tu vois, aujourd'hui, donc, tu disais que tu as ton enfant de 17 ans. Moi, j'ai une petite soeur de 16 ans. Et en fait, je vois la difficulté aujourd'hui d'être parent. Moi, j'ai pas d'enfant et je me pose un sacré paquet de questions sur le fait un jour d'en concevoir ou pas. Parce que justement, pour les élever dans cette société, c'est extrêmement difficile. Et je vois d'ailleurs le décalage qu'il y a entre ma génération, née en 88, et ma petite sœur, née dans les années 2000. Même moi, je suis largué, j'arrive pas à suivre. Je sais pas à quelle vitesse ça va, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher les informations. Il y a un tas d'applications qui naissent à peu près tous les mois. Nous, on sait même pas. On en entend parler 2 ans après. Et la télévision, ils ne la regardent plus. Le journal télévisé, nous, c'était Légion. Même moi, à mon époque, le soir
bien
à 20h, on regardait.
On regardait
PPDA et on avait notre information. Aujourd'hui, il y a les chaînes d'info en continu. Ils ont alors Facebook, c'est démodé. Instagram, c'est démodé. Snapchat,
ils ont TikTok.
Et donc, on ne sait pas ce qui circule sur ces réseaux sociaux.
Ça nous échappe.
Complètement.
Ça nous échappe. On est dans une société où l'essentiel des choses sont en train de nous échapper. C'est plus grave encore que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Moi, je pense qu'on ne maîtrise plus la situation. C'est un peu comme la crise écologique. C'est d'une autre façon, mais c'est pareil. C'est-à-dire que les choses s'accélèrent et on n'est plus en capacité de freiner. Moi, je ne veux pas être pessimiste. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut revenir aux fondamentaux. Les parents ont un rôle à jouer. Tout ça, j'en suis convaincu. Mais moi, je me demande si ça ne nous échappe pas complètement.
Si. Et puis en plus, lorsque Daniel, tu essayes d'esquisser des lois pour venir contrôler en fait, les réseaux sociaux, tout de suite, on nous dit que c'est liberticide.
Tu as été parlementaire. On peut légiférer obliger les réseaux sociaux à être responsables. Ce n'est pas possible pour toi, tu crois?
Si, mais il a raison, mais c'est quand même très, très, très compliqué parce que c'est des puissances énormes, énormes, qu'on maîtrise difficilement. On peut peut-être légiférer pour les réseaux sociaux français, mais après, tout ce qui est international, c'est impossible. Ouais. Or, on voit bien que les réseaux sociaux, ils sont dans le monde entier. Moi, je crois qu'on est peut-être au début de la construction d'une nouvelle société. Je crois que c'est peut-être le moment ou jamais, avec tout ce qui se passe en ce moment... Ouais. Peut-être de réfléchir justement à ce que... il faudrait tirer un trait sur tout et repartir sur une société plus juste, qui s'occupe beaucoup plus du
social
qu'aujourd'hui. Parce que quand même, en ce moment, il faut bien le dire, on n'en a pas encore parlé, mais la crise sanitaire, c'est grave, bien sûr. Parce que c'est notre santé qui est en jeu. Mais il y a une crise économique qui arrive, là, une crise sociale énorme, énorme.
Énorme.
Vous savez, dans les bureaux d'aide sociale, ça explose. Les gens n'ont plus de quoi à manger, malgré les aides. Parce que bon, c'est bien de donner 150 euros aux étudiants, mais ça ne suffira pas. Et il y a des étudiants on a vu ces jours-ci à la télévision, qui disaient qu'ils n'avaient plus de quoi à manger. Quand même, un grand pays comme la France, on en arrive là. Il y a bien quelque chose qui ne va pas dans la société, donc il va falloir s'y pencher dessus très vite.
Ce matin, j'étais avec Guy Toreton en direct à 7h30 dans la matinale. Guy Toreton qui m'annonçait l'ouverture d'une nouvelle antenne, une antenne supplémentaire des Restos du Cœur sur Chorges, parce que trop de demandes. Oui. Et ils ont de plus en plus de demandes et de moins en moins de denrées et de
C'est pour ça que j'en parlais en aparté pendant la pause tout à l'heure, qu'on est en train de mettre en place de l'aide alimentaire, de produits locaux. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu, quoi. En essai, quoi.
Parlons justement des nouvelles mesures qui nous sont tombées dessus, ça y est, donc pour nous au Alpin, nous sommes tombés sous le coup du couvre-feu. Daniel peut encore sortir en boîte, donc comme il fait régulièrement tous les samedis soirs, bien sûr,
Et alors, je vais vous faire une confidence, je suis jamais rentré de toute ma vie dans une boîte de nuit.
Daniel,
vous voyez que non, mais j'ai pu vivre
Daniel,
longtemps quand même.
On y va.
Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces nouvelles mesures annoncées par le gouvernement et qui nous touchent, nous, de près, toi, de moins près, mais quand même un petit peu.
Ben, si. Tout à l'heure, à la visioconférence avec le secrétaire général, je lui disais que bien sûr, je ne peux pas me réjouir des annonces qui sont faites parce que je sais bien qu'il y a un tas de commerçants qui vont beaucoup souffrir et qui risquent d'être en difficulté. Mais en même temps, quand on est un élu responsable, eh bien, on doit suivre les directives que, sur le plan national, on nous propose. Alors, en effet, bon, nous, dans le département, on n'est pas loin quand même d'avoir la même situation que dans les Hautes-Alpes. Alors, on va tenir certainement encore quelques jours ou peut-être quelques semaines. Mais en attendant, on a pris des mesures, puisque ce soir, la préfète a pris un arrêté pour que, par exemple, à Sisteron, eh bien, les bars et les restaurants devront fermer à 22h à partir de demain soir et à Manosque et à Digne à 23h. Et ça, c'est pour éviter qu'on soit obligé de prendre des mesures encore beaucoup plus draconiennes. Mais la mairesse de Digne, Patricia Granet, disait tout à l'heure, vous savez qu'elle est médecin, et elle disait tout à l'heure, ça ne suffira pas. Et elle est persuadée que très vite, on sera obligé de reconfiner. Oui. Alors peut-être, comme il l'a annoncé ce soir...
On parle de reconfinement
locaux. C'est-à-dire commune par commune, là où il y a vraiment...
Grosse ville.
Grosse ville, on confine. Mais ça va être catastrophique pour l'économie.
Ça ne manque pas que dans les grosses villes.
De toute façon, Castex l'a dit, novembre sera terrible.
Ah oui.
Donc on peut imaginer qu'effectivement... Ils vont faire une croix sur novembre en espérant une récupération à partir de décembre.
Mais ce qu'a dit Daniel, moi j'y adhère tout à fait, cette crise sanitaire qui est très grave, la crise économique qui va derrière et la crise sociale qui va derrière, c'est terrible. Mmh. Et en regardez, moi je lisais un article du Monde aujourd'hui, ils expliquent que ceux qui sont aisés, je m'y mets dedans, on a plutôt thésaurisé, on n'a pas trop consommé parce qu'on n'est pas sorti. Et si, mais c'est des statistiques.
Laisse-moi finir.
Parce que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ce que je veux dire. Mais ce qui apparaît, c'est qu'il y a à peu près 50 milliards qui n'ont pas été consommés, qui ont été thésaurisés, on va dire.
Oui.
Pas par volonté de thésauriser, parce qu'on n'est pas sorti pendant le confinement, parce qu'on n'a pas envie de s'habiller, changer de voiture, peu importe. Mais le problème, c'est que parallèlement à ça, il y a des gens aisés qui ont thésaurisé et il y a des gens pauvres qui, eux, ont fait des prêts pour s'en sortir, qui ont dépensé leurs réserves et qui sont au bout du bout.
Au bout du rouleau.
Et donc là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on repart, parce que moi je suis un peu comme Daniel, comme l'a dit Madame le maire de Digne, je suis assez d'accord avec elle, je ne vois pas comment on peut éviter le confinement généralisé. Mmh. Si on veut casser la courbe, vu les problèmes, il y a je ne sais plus combien d'hospitalisations, une par minute actuellement,
c'est ça, à peu près,
en France. Vous rendez compte
Il y a un secteur qui est en souffrance. Il y en a beaucoup. Il y a un secteur qui est en souffrance, c'est la culture. Voilà. Le spectacle, le vivant, etc. Et tout. Je suis tombé sur un gars que j'adore, donc je voulais vous le faire écouter. Pierre Arditi. Voilà. Pierre Arditi qui a réagi à ce qui se passe. Je vous propose d'écouter, c'est vraiment très instructif.
Ça n'est pas une tragédie pour le théâtre de donner des spectacles à 18h au lieu de les donner à 20h30. Ça n'est pas une tragédie, je l'ai fait moi-même à de nombreuses reprises. Ça n'est pas un problème de fond. Pour les restaurateurs, c'est exactement la même chose. Ils sont peut-être encore plus punis que nous, parce que eux, et vous le savez bien, si on doit fermer les restaurants à 21h, ils sont foutus. Bon, ça c'est tout à fait... Alors comment faire, comment dire, ajouter... une égalité à cette situation qui est si chaotique. Moi, je suis toujours frappé d'entendre, a posteriori, je ne vise personne en particulier, mais que tout le monde aurait aujourd'hui la bonne solution s'il était au pouvoir. Eh bien, moi, je n'en suis pas sûr. Ce virus est une saloperie. Il change de chemin ou de route toutes les 20 secondes. Comment voulez-vous prévoir quoi que ce soit d'absolument cohérent à 100%? C'est impossible. Il faut accepter que pour le moment, c'est impossible. Alors, pour en revenir au théâtre, bon, très bien, on va se réinventer. Les artistes, ce sont des créateurs. On va trouver des solutions. C'est pas génial, mais enfin, tout ça est pour une durée relativement limitée. Et si le mot anxiogène angoisse mon ami Bougelat, ce que je comprends très bien, moi, il y en a un autre qui m'exaspère, c'est liberticide. Voilà. Il y a une chose qui est terriblement liberticide, c'est la mort. Voilà, c'est la mort. Alors, s'il faut choisir entre faire du théâtre ou ne plus en faire pendant 4 ou 5 semaines et mourir, je choisis le confinement. Voilà. Et puis, une autre dernière chose, puisqu'il paraît que c'est très difficile d'avoir 20 ans en 2020, moi je pense que c'était encore plus difficile d'avoir 20 ans en 1940, parce que quand il y avait le couvre-feu, c'est les nazis qui veillaient au bon respect de ce couvre-feu. On n'est pas du tout dans cette même période. Alors, encore une fois, je suis tout à fait prêt à être optimiste. Je félicite Roselyne Bachelot de nous défendre becs et ongles. Je la remercie. Elle est très courageuse et je l'estime profondément. Et ben maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On va prendre notre mal en patience, le mot mal étant le terme exact. On va prendre notre mal en patience pendant 4, 5, 6 semaines et ensuite on verra. Mais pour le moment, je suis désolé, on ne peut pas faire de différence entre les artistes, les restaurateurs et ceux qui ne peuvent plus travailler. C'est comme ça, c'est comme ça. En bon citoyen, il faut se plier à tout ça.
Voilà, voilà. J'étais devant devant la télé, je voyais ça et je me dis, c'est sage quoi.
Bien sûr, c'est raisonnable.
C'est sage.
C'est raisonnable.
C'est sage. J'ai dit bon bah oui, moi j'aimerais bien effectivement pouvoir faire le théâtre le soir, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Moi quand je vois des réactions, ça me met en colère. Les gens qui réagissent négativement par rapport au port du masque, je ne comprends pas.
Ah oui.
Je ne comprends pas.
Il y en a encore. Oui.
Je ne comprends pas. On sait quand même. Moi, je le porte ce soir. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que je le porte parce que j'ai intérêt à le porter.
Mais oui, mais.
Liberticide, il a raison.
Mais tu as raison.
Si tu es mort, tu pars plus de liberticide.
Exactement, tout à fait.
Tu es mort, tu es de l'autre côté. Mais franchement, moi, je ne comprends pas et je suis très en colère, surtout en tant que militant mutualiste, de voir que les gens ne se protègent pas. On leur demande pas de faire l'arbre au doigt, on leur demande de porter un masque et d'avoir une petite bouteille et de temps en temps, toutes les heures, se laver les mains avec. C'est quand même pas la mer à boire. Mais si on fait ça, on va y arriver. Mais si les gens continuent à nier... Moi, il y a des commentaires sur Facebook qui me rendent fou. D'ailleurs, j'ai des amis que j'ai enlevés. Hein.
Ah bah, je les supporte plus. C'est des périodes comme ça où on fait le ménage.
J'ai fait du ménage parce que quand je vois les gens qui disent que c'est liberticide de porter un masque, mais franchement, ils savent pas ce que c'est que la vie, là.
Il faut reconnaître que c'est pas rigolo.
Mais c'est vrai.
C'est pas rigolo, c'est pas agréable. Mais il faut que chacun, à notre mesure, on fasse un petit effort. De toute façon, il faudra peut-être aussi faire l'effort d'aller soutenir les restaurateurs en prenant des précautions, d'aller déjeuner plus tôt, mais ne pas arrêter. Mm-hmm. Parce que tu disais que la consommation, tout à l'heure, que la consommation a baissé, c'est pas vrai. Elle a redémarré cet été.
Oui.
Par contre, la classe moyenne qui avait les moyens, ils ont épargné. Ils ont épargné et la classe un petit peu moins moyenne, enfin un peu en dessous, elle s'est endettée. Ouais. Mais il faut consommer parce que si on arrête de consommer, alors on peut très bien sortir de la décroissance, de la non-consommation et tout. Mais aujourd'hui, si on arrête de consommer, notre économie est foutue. Et il faut maintenir une certaine consommation pour ne pas trop handicaper l'avenir de nos jeunes. Parce que c'est bien beau de taper dans les caisses. C'est bien beau de renflouer, c'est bien beau de mettre en chômage partiel, mais on crée des trous, et demain, mon pauvre Jean-Claude, malheureusement, on va avoir des remboursements de médicaments, moins de protection sociale, parce que la France, et on peut critiquer l'État français, on peut critiquer ce qu'on fait ou ce qu'il faudrait faire ou autre, mais il faut quand même pas oublier qu'en France, malgré tout, on a été soutenu pendant la crise, financièrement, socialement, et que je peux vous dire que dans le monde, dans le reste du monde, il y a des pays où les gens, ils n'ont pas tout ce que l'on a.
Non, mais c'est clair. On a une protection sociale qui est unique. On a un état de droit, un état protecteur qui existe en France.
Et un état solidaire aussi.
Mais moi, je profite de l'antenne pour lancer des messages très clairs aux gens qui écoutent. Protégez-vous, faites des efforts individuels, c'est que comme ça qu'on va s'en sortir. On peut pas tout attendre de là-haut, du président de la République.
Romain.
Moi, pour poursuivre l'appel de Jean-Claude, oui, et il faut vraiment se protéger et faire vraiment attention. Et en tant que Briançonnais, je peux le dire, parce qu'aujourd'hui, Briançon, c'est la troisième ville.
Tu viens de sortir là.
Il y a Saint-Étienne, une commune dans le Nord, et Briançon. On a un taux d'incidence qui vient de passer à 1050 pour 100 000 habitants. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas l'apport des touristes, parce qu'il y en avait pas, en fait, au mois d'octobre.
Ouais.
Donc c'est bel et bien en fait les Briançonnais qui n'ont pas respecté les gestes barrières et qui se sont contaminés. Le problème c'est que la France, elle a dépensé, j'ai fait le calcul, c'est un calcul à une fourchette, mais entre le plan de relance, entre toutes les aides qui ont été distribuées. Mmh. Et je compte pas les milliards des collectivités. Je compte que l'État français, d'accord? C'est 400 milliards. Mmh. Moi, aujourd'hui, à 32 ans, j'ai pas envie d'un deuxième confinement qui recoûte 400 milliards. On n'a pas les moyens d'un deuxième confinement. C'est pas possible. Mais
s'il
faut sauver la vie, on le fera.
Non, on n'a pas parlé des collectivités locales parce qu'elles sont dans le même cas que les ménages en France. Les collectivités locales, c'est une année noire. C'est-à-dire, moi, assisteront, on a fait les calculs, il me manque 400 000 euros de recettes que je n'ai pas touchées à cause du Covid. Donc, ces 400 000 euros, naturellement, le budget prochain, on sera obligé de faire 400 000 euros déjà d'investissement en moins. Je pense que l'année 2021 va être terrible pour les collectivités. Parce que les communautés de communes ont basé leurs recettes sur les bases des entreprises. Or, cette année, les bases des entreprises sont entre 40 et 50 % plus bas. Donc, quand on va recevoir les dotations en début d'année, eh bien, elles vont baisser également de 40 %. Donc, je mets déjà en garde les maires en leur disant « Attention, attention, vous allez avoir de grosses difficultés pour faire vos budgets. » Et l'État nous dit « Vous avez l'impôt foncier. » Mais on ne peut pas non plus, une fois de plus, imposer les ménages.
Bon, eh ben voilà, c'est sur ces mots qui sont pas vraiment très optimistes, Daniel. Hein, t'aurais pu terminer avec une autre note. Hein.
Non, mais en tout cas, je préférerais.
Il faut garder le moral. Il faut garder le moral.
50 ans de carrière, j'en ai vu toutes les couleurs. Des crises, j'en ai vu, j'en ai revu. Mais comme celle-là, jamais. Je pensais pas que je finirais ma carrière sur une situation aussi dramatique que celle que l'on vit aujourd'hui.
Pourquoi tu te représentes plus? C'était le mot de la fin. Merci Daniel Spagnou d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Romain. Merci. C'est vraiment sympa de t'être dépêché pour nous rejoindre. Jean-Claude, merci. Mon petit Bruno, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec, quelqu'un que tu connais bien, puisqu'il est, comme toi, président des maires, mais du 05. C'est Jean-Michel Arnaud qui sera avec nous la semaine prochaine. Passez une belle soirée.